de quelque chose que vous connaissez déjà plus ou moins, le calcul différentiel. Alors, la première chose que je vais faire, c'est une chose qu'il ne faut en principe ne jamais faire quand on doit faire un exposé, et surtout quand on doit rédiger un devoir de français ou de philo, c'est modifier le sujet. Donc, je vais transformer le titre « le calcul différentiel » en « le calcul différentiel et intégral ». Hein, l'expression, vous verrez par la suite pourquoi je fais ça. Quand on parle de calcul différentiel, souvent on entend les deux, mais je veux mettre les points sur les i. Sachez qu'en anglais, par exemple, le mot calcul, tout court, calculus, désigne calcul différentiel et intégral. Donc c'est quelque chose que vous connaissez, que vous reconnaissez avec deux symboles. Quand vous ouvrez un livre de maths ou de physique, vous avez un symbole D partout, et une expression comme ça, c'est que vous faites du calcul différentiel et intégral. D'accord ? Typographiquement, c'est quelque chose que vous connaissez. Alors, ce que je voudrais essayer de faire, c'est de vous montrer comment un mathématicien aujourd'hui pense le calcul différentiel et intégral. Alors, c'est évidemment extrêmement ambitieux. Jamais j'oserais faire devant mes collègues ce que je suis en train de faire devant vous, de peur de paraître... voilà. Alors, mon exposé aura trois parties. La première partie, je vais vous demander un effort de comprendre ou d'essayer de comprendre ou de vous mettre dans une position, compréhensive. Sur un certain nombre de notions mathématiques que je vais essayer de vous expliquer de façon minimale, en insistant sur des idées. Donc certains d'entre vous les ont déjà vues, d'autres peut-être moins. Et ce que je voudrais faire, c'est faire une espèce de résumé du cœur du calcul différentiel et intégral. C'est vraiment le kit de survie. Vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, les aviateurs de la Royal Air Force avaient une écharpe autour du cou qui leur servait à avoir chaud dans leur avion. Et accessoirement, dessus, il y avait imprimé en tout petit un plan de l'Europe, une carte de l'Europe. Il y en a beaucoup qui ont pu survivre grâce à ça. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Ensuite, je voudrais évoquer un certain nombre de points historiques concernant le calcul différentiel. C'est une très très longue histoire, extrêmement compliquée, mais je voudrais essayer de faire quelques vignettes, quelques points qui, je trouve, sont assez frappants du point de vue de l'histoire des sciences, de la philosophie, de ce que c'est que les mathématiques. Et enfin, je voudrais conclure par une partie un peu plus ambitieuse, essayer de vous faire toucher des choses, des mathématiques d'aujourd'hui, et même des mathématiques ouvertes, des questions scientifiques ouvertes, qui ont à voir fondamentalement avec le calcul différentiel. Bon, alors, le calcul différentiel, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, commence par quelque chose que vous connaissez, je pense, tous, plus ou moins, par la notion de dérivée. Vous savez que si vous donnez une fonction... Ils ont une fonction réelle, une variable réelle, qui est suffisamment gentille, en général que donnée par une expression simple, un polynôme, une fraction rationnelle. Vous savez qu'on peut calculer sa dérivée. Donc sa dérivée, c'est défini par l'expression que vous avez là. Est-ce que je gêne peut-être là ? L'expression que vous avez là sous les yeux. La dérivée au point T, c'est une limite. C'est une limite du taux d'accroissement de f entre t plus h et t. Donc c'est la limite du quotient que vous voyez là. Quand ça existe, on dit que la fonction est dérivable en t, et quand c'est dérivable en tous les t du domaine de définition, on dit que c'est dérivable. Donc, d'un point de vue graphique, vous savez que la dérivée représente la pente de la fonction qui est supposée être, avoir une pente, comment dire, une tangente, bien définie, au point t, c'est-à-dire au point, dans le plan, au point de coordonnées t, f de t. Donc ça, je pense que vous connaissez tous ça. Oui ? Bon, je suis rassuré, j'avais très peur de non. Bon. Donc ça, c'est une histoire, c'est le début de l'histoire. Alors, une chose que vous savez aussi, c'est que les calculs de dérivés, c'est très ennuyeux. Mais c'est très important pour la suite de l'histoire de réaliser ça. Donc le calcul des dérivés, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme facile, ou mécanique, ou sans astuce, pourvu qu'on connaisse un certain nombre de règles. Donc, j'ai résumé sur ce tableau un certain nombre de ces règles. Par exemple, la première règle, c'est que la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. C'est une opération linéaire. Une seconde règle, c'est pour dériver un produit. Donc, pour dériver le produit de deux fonctions, A et B, vous dérivez la première, multiplié par la deuxième, puis vous rajoutez le terme en changeant le rôle des deux variables. Une fois que vous savez dériver un produit, vous pouvez aussi dériver un quotient, j'ai écrit. Une règle un peu plus compliquée et très importante, c'est pour dériver une fonction composée. D'accord ? Vous connaissez ça. C'est le produit des dérivés, mais il faut bien dire où. C'est l'endroit où il faut. Après, la dérivée de la composée de A et de B, C'est le produit de la dérivée de A en B de T et de la dérivée de B. Bon, et puis ensuite, j'ai écrit un certain nombre de calculs de dérivées simples. Si vous avez une fonction constante égale à C, la dérivée est 0. Quand la fonction est égale à la fonction F de T égale T, la dérivée c'est 1. Puis vous savez aussi dériver des monomes, T puissance n. Incidemment, une fois que vous savez que la dérivée d'une constante c'est 0 et que la dérivée de T c'est 1, vous voyez très facilement, vous êtes contraint par les règles du dessus à ce que la dérivée de T puissance n, ce soit n T puissance n. Puis il y a des fonctions un peu plus compliquées, les dérivées de l'exponentielle, c'est l'exponentielle, de logarithme, c'est l'inverse, de sinus, de cosinus. Puis ensuite, en utilisant les règles du dessus, vous pouvez faire des calculs plus compliqués, sur cosinus, arcsinus. Donc tout ça, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est, en un certain sens, c'est sans astuce, c'est mécanique. Alors, le point que vous devez déjà voir, qui est très important pour l'histoire de notre sujet, c'est que ça a beau être simple, c'est déjà très utile. Vous pouvez déjà faire des choses intéressantes avec ça. Par exemple, vous pouvez utiliser les dérivés pour résoudre des problèmes d'extréma. Alors, on a dû beaucoup vous embêter avec ça, vous faire trouver les maximums et les maxima, les minima des fonctions. Donc, je vous rappelle le point de l'affaire. Si vous avez une fonction sur un intervalle, j'ai fait un petit dessin en bas, hein, qui atteint en un certain point son maximum ou son minimum, au point en question, la dérivée vaut zéro, pourvu que la fonction soit gentille, hein, et soit dérivable. Alors, c'est presque évident du point de vue d'aujourd'hui. Tout simplement, vous voyez, par exemple, si vous avez un maximum, pourquoi la dérivée est zéro ? Bah, parce que vous regardez le taux d'accroissement entre le point C, qui est le maximum, qui est... D'ailleurs, j'ai fait une faute. J'ai écrit le raisonnement pour un minimum, pas pour un maximum. Donc, prenez ce point-ci. Le taux d'accroissement entre C et un autre point à côté, c'est plus ça, c'est positif, puisque C, c'est le minimum. Et donc, le quotient, la pente, f de c plus h moins f de c sur h, a le même signe que h. Donc, pour des h un peu positifs, c'est positif. Pour des h un peu négatifs, c'est négatif. Et comme c'est la limite commune quand h est positif ou négatif, c'est zéro. C'est imparable. Bon. Alors, je voudrais peut-être vous raconter un exemple qui est très important historiquement, dans lequel vous utilisez ça pour faire vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Peut-être un peu plus amusant. Cet exemple remonte à Fermat. C'est la chose suivante. Imaginez que, vous voulez aller d'un point à un autre, hein, du point bleu de ce point-ci à ce point-là, et vous devez marcher dans deux terrains différents. Le premier terrain, c'est bitumé, vous marchez vite, et le deuxième terrain, en dessous de la ligne horizontale, c'est une terre labourée, vous marchez lentement. Dans le premier, vous allez à la vitesse V1, dans le deuxième, vous allez à la vitesse V2, et vous cherchez le chemin qui vous prend le moins de temps. Problème simple. Alors, Fermat a démontré, et ça a donné d'ailleurs à pas mal de polémiques, avec Descartes, qui n'était pas d'accord sur ses dérivations, peu importe, que pour le chemin optimal, donc le chemin optimal, bien sûr, dans chacun des terrains, vous allez tout droit, hein, et la difficulté, c'est de trouver le point... par lequel il faut franchir la zone, la ligne frontière, pour optimiser votre chemin. D'accord ? Vous avez intérêt à marcher sur une plus longue distance dans l'endroit où vous marchez vite, et marcher moins dans l'endroit où vous marchez lentement pour aller plus vite. Alors, ce qu'a démontré Fermat, c'est que le chemin optimal, donc vous pouvez je vais le dessiner là, et vous voyez, vous avez un angle d'incidence, vous avez deux angles, I1 et I2, hein, comme en optique. Eh bien, Fermat a démontré qu'il y a la même règle que pour la réfraction en optique, hein, où les indices de réfraction sont remplacés par l'inverse des vitesses. Hein, pour le chemin optimal, vous avez 1 sur V1 sinus I1 égale 1 sur V2 sinus I2. Alors, du point de vue, avec les techniques de dérivée que vous connaissez, ce problème qui était vraiment difficile, bien sûr, la première fois qu'on l'a résolu, et qui a donné lieu à tout ce débat entre Fermat et Descartes, vous pouvez le faire très vite. Alors, j'ai refait la même figure et j'ai rajouté des choses en vert. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté ? J'ai fait des choses avec les triangles. J'ai noté H1 et H2, les distances des deux points à la ligne frontière. Et puis, j'ai noté D1 et D2, les deux longueurs des deux segments bleus. Alors ensuite, j'ai rajouté des choses en vert avec des relations trigonométriques, H1, CD1, cosinus I1, etc., en utilisant les formules élémentaires sur les sinus et les cosinus. Puis j'ai aussi fait noter L, vous voyez, la distance de la projection horizontale de vos deux points. D'accord ? Bon, tout ça c'est très simple. Ensuite, vous pouvez écrire la durée de votre chemin en fonction des données géométriques. C'est le temps que vous passez dans le premier segment bleu dans la zone 1, c'est sa longueur divisée par la vitesse dans la zone 1, D1 sur V1, plus le deuxième, D2 sur V2. Et vous exprimez ça en fonction des angles, H1 sur V1, 1 sur cosinus I1, plus la même expression avec 2 au lieu de 1. Bon, ça c'est très simple. Une autre relation que vous avez, c'est que la longueur L qui est fixée, vous pouvez l'écrire, hein, cette longueur-là, c'est la somme de ces deux longueurs-là. Ça vous donne cette relation-ci. Bon, alors maintenant vous cherchez le minimum de T. Bon, vous supposez qu'il est atteint, intuitivement c'est clair qu'il est atteint en un certain point, et vous pouvez considérer que tout dépend, hein, de l'abscisse, que je n'ai pas noté pour simplifier, du point où vous franchissez la ligne frontière. Hein? Et donc vous dites, au point minimum, on applique notre principe, la fonction t, qui est une fonction de cette abscisse, doit avoir une dérivée qui est zéro. Bon, et c'est ce que j'ai écrit en bas. La dérivée de t vaut zéro, et cette dérivée, c'est la dérivée de cette expression-là, qui est donnée par cette expression-ci, mais vous avez une relation entre les dérivées de I1 et I2 que vous obtenez en dérivant le fait que la somme de ces deux longueurs vaut L, que j'ai écrite ici. Et vous voyez qu'en fait, donc ces deux longueurs alpha, et vous avez une longueur alpha qui est H1 sur I'1 sur cosinus carré I1, c'est un certain nombre, alpha, que vous voyez apparaître dans l'expression de la dérivée de T, ici. Et vous voyez apparaître son opposé ici. Donc la relation qui est ici s'écrit là, comme je l'ai écrit en bas, en rouge et vert, et vous pouvez factoriser le facteur alpha vert, et ça vous donne la relation de Fermat. Donc ce que je veux dire, c'est une fois que vous avez fait le dessin, que vous ne vous trompez pas dans les triangles, vous faites un calcul de dérivée, que vous ne vous trompez pas dans les signes, dans les sinus et les cosinus, pour vous aujourd'hui, c'est trivial, modulo les erreurs de calcul, de retrouver le résultat de Fermat. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est le calcul différentiel. Et maintenant, je voudrais parler du calcul intégral. Alors, un calcul intégral, c'est une histoire plus compliquée et plus intéressante. C'est une histoire qui combine, a priori, deux histoires qui, initialement, n'ont rien à voir. La première histoire, c'est le calcul des primitives. Vous savez dériver les fonctions. Vous pouvez vous poser le problème inverse. Étant donné une fonction, en trouver une nouvelle dont c'est la dérivée. C'est un problème du point de vue physique qui est très naturel. Si vous connaissez la vitesse de votre voiture tout le temps, vous voulez savoir où vous êtes. Bon. Alors, comme vous savez, c'est un problème que vous pouvez résoudre parfois, mais pas toujours. Et quand vous devez le calculer, effectivement, c'est pas facile. Il faut être malin, il faut utiliser des astuces. Alors, j'ai fait une toute petite table. Par exemple, une primitive de t puissance n, c'est 1 sur n plus 1, t puissance n plus 1, plus une constante. Ça, c'est facile, c'est la table de tout à l'heure que j'ai écrite en inversant la colonne de droite et la colonne de gauche. Mais vous voyez, pour une fonction déjà comme 1 sur t, c'est plus compliqué. Vous partez d'une gentille fonction donnée par une fraction rationnelle, et la primitive, c'est le logarithme. Et puis pour une fonction comme 1 sur racine carrée de 1 moins t carré, qui est une fonction qui a une nature algébrique, vous obtenez une fonction trigonométrique, arcsinus. Et puis si vous remplacez le t carré par le t cube, vous pouvez vous demander ce que c'est, et vous ne le savez pas, c'est normal que vous ne le sachiez pas, parce que c'est des fonctions vraiment beaucoup plus compliquées que les fonctions élémentaires, trigonométriques ou exponentielles, et les fonctions algébriques de ces fonctions. Donc ça, c'est le premier point sur le calcul intégral. La deuxième notion qui se trouve être reliée, et c'est tout le point de l'affaire, c'est le calcul des aires. Quand vous donnez une fonction, gentille, vous pouvez définir une fonction d'air. Vous voyez, j'ai désigné une fonction f, et puis on peut noter par cette notation, donc appeler, c'est une notation, l'air qui est assuré, hein, qui est borné par le graphe de la fonction, et puis les lignes verticales d'abscisse C et T. Bon, alors, vous savez que dans la vie, il y a beaucoup de questions, enfin, surtout si vous faites des sciences de l'ingénieur, où calculer des airs ou des volumes est important. Donc tout le point de notre histoire, et à mon sens, c'est un peu bête de dire ça, parce que
c'est vraiment une des grandes, grandes découvertes de la science occidentale, c'est que ces deux choses, a priori sans lien, sont profondément liées. À savoir, les primitifs calculent les aires. Alors, le point, c'est ça. C'est que si vous définissez la fonction f par l'air, hein, là, j'ai dessiné, donc je devrais... Ah, je n'ai pas pris des crayons. Vous voyez, si vous prenez l'air de cette partie-ci, hein, c'est une fonction de t qui dépend de t, et sa dérivée par rapport à t vous redonne la fonction. Alors, c'est très simple, c'est pas tout à fait évident, mais c'est géométriquement quelque chose que vous voyez sur un dessin. Hein. Si vous regardez deux points t et t plus h, l'accroissement de la fonction grand f, c'est l'aire du petit... Ah. Vous voyez, l'accroissement, c'est l'aire de cette bande, avec une petite... qui en haut est bornée par un petit bout de courbe, un peu un zigouille, la rouge. Donc la différence, c'est l'aire du vrai rectangle que j'ai bordé en noir, de hauteur f de t et de base h, donc c'est f de t plus h, puis vous avez un petit terme d'erreur qui est h fois l'espèce de largeur moyenne du petit fourbi là, que je note epsilon de h. Et cette largeur moyenne, elle est certainement plus petite que la hauteur qu'elle a, le sup là, de... Et clairement, quand h devient de plus en plus petit, ce terme epsilon de h, cette épaisseur moyenne du rouge, là, tend vers zéro. Et donc, si vous regardez le taux d'accroissement de grand f, vous obtenez que c'est f plus cet epsilon qui tend vers zéro, et ça tend bien vers f. D'accord ? Donc ça, c'est très simple, mais c'est quand même une très très grande découverte que Newton et Leibniz ont fait dans les années 1680, et qui a eu vraiment un impact considérable dans le développement des mathématiques et de toute la technologie, de la physique et de toute la technologie. Donc, pourquoi ? Comment on sert de ça ? Alors, peut-être avant de me servir de ça, de vous faire des exemples, je voudrais faire une petite remarque sur les notations. Donc, les intégrales, ces R, c'est noté par ce signe. Hein, ça représente l'R... que vous avez vu tout à l'heure sur mon dessin. Donc, il y a une notation qui est un peu bizarre. D'abord, on emploie ce signe. Ce signe, c'est comme un grand S, c'est comme une somme déformée. Dans les premiers textes imprimés, les typographes qui travaillaient pour Leibniz utilisaient un S majuscule, et puis ça a été remplacé plus tard par un signe propre. Alors, une première chose, c'est au fond, vous pouvez vous dire pourquoi on note pas ça le signe intégral avec A en bas, B en haut, ça on en a bien besoin pour dire entre quoi et A, on prend l'intégrale, et avec F. Pourquoi on met F de T dt ? Alors ça, c'est une notation qui a été introduite par Leibniz. Donc j'imagine que vous avez tous entendu parler de Leibniz. Si vous n'avez pas entendu parler de Leibniz, vous avez entendu parler de sa méchante caricature par Voltaire. Leibniz, c'est la personne qui, à cause d'un certain nombre de ses théories, de ses conceptions philosophiques, a été avec beaucoup de mauvaise foi caricaturée par Voltaire dans Candide, comme le docteur Pangloss. Mais c'était vraiment... Bon, c'est une histoire, on peut rediscuter plus tard. C'est un des plus grands penseurs, depuis plusieurs siècles, qui a eu des contributions en philosophie très importantes, mais aussi en mathématiques. Et c'est ça dont je vous parle. Et il y a un aspect extrêmement fascinant dans la puissance des notations. Donc, on note ça, f de t dt, et la lettre t ici, c'est une variable muette. À savoir, si vous préférez utiliser une autre lettre, la gribouillie, hein, l'intégrale de A à B de F de gribouillie des gribouillies, ça veut dire la même chose. C'est comme ça. C'est une notation. Bon. Leibniz utilise aussi cette notation-là pour la dérivée, D de F de X sur DX. Bon. Alors, vous pouvez vous dire à quoi bon. Le point, c'est que c'est des notations qui transforment en automatisme de calcul des règles compliquées. Donc ça, c'est très, 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 très intéressant du point de vue du développement des mathématiques. Par exemple, la règle pour la dérivée d'une fonction composée, qui est la dérivée de cette composée, c'est ça. Vous pouvez vous amuser à l'écrire f' de g de t, f' de x, on écrit df de x sur dx, vous remplacez g de t, x par g de t, donc vous l'écrivez df de g de t fois dg de t. Puis g' de t, vous l'écrivez dg de t, dg de t sur dt. D'accord ? Mais à ce moment-là, que ceci soit égal à ça, c'est évident, vous avez simplifié numérateur et dénominateur. D'accord ? Ce type de notation fait que, comment dire, des manipulations formelles, a priori compliquées et lourdes conceptuellement, vous n'avez plus à y penser, ça devient des automatismes. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle la formule de changement de variable. Donc, vous voyez très facilement que si g est une fonction dérivable et f a pour primitif grand f, cette fonction compliquée f de g de t, g prime de t, a pour primitif grand f de g de t. C'est la formule du dessus vue à l'envers, au niveau des primitives. Bon, donc une fois que vous avez fait cette observation, pour intégrer cette fonction f de g de t, g prime de t entre a et b, vous utilisez cette primitive et vous voyez que c'est égal par définition à l'intégrale de f entre g de a et g de b. Mais avec les notations de Leibniz, aussi ça devient évident, puisque ceci, vous pouvez l'écrire, g' de t, vous l'écrivez dg de t sur dt, et puis vous, bravement, sans trop savoir ce que ça veut dire, vous remplacez, vous simplifiez par dt, en numérateur, en dénominateur, et vous l'écrivez comme ça, f de g de x, dg de, pardon, f de g de t, dg de t. Et simplement, c'est ce que vous obtenez en remplaçant la variable x ici, non pas par gribouillis, mais par g de t. D'accord ? Donc Leibniz, c'est un exemple extraordinaire. C'est quelqu'un qui non seulement a fait une découverte d'objets mathématiques, de structures mathématiques, mais qui a inventé une notation qui permet de la manier avec une efficacité incroyable. Alors, des exemples. Donc, cette correspondance entre les intégrales et les calculs d'air, vous pouvez vous en servir dans les deux sens. D'abord, vous pouvez vous en servir pour calculer des airs. Après tout, des fois, on sait les calculer les primitives. Alors là, j'ai fait un transparent dans lequel j'ai résumé un intransparent, une histoire qui fait couler beaucoup d'encre, sinon de sang au XVIIe siècle. Des gens comme Pascal, Robert Val, Descartes se sont beaucoup, beaucoup empaillés sur la cycloïde et ses propriétés. Donc la cycloïde, vous voyez, c'est la courbe que décrit le point sur la circonférence d'un cercle qui roule sans glisser sur une droite. Hein, vous voyez ? Vous collez un chewing-gum sur le pneu de votre bicyclette et vous regardez la courbe que décrit le chewing-gum. Donc là, j'ai fait la cycloïde où vraiment le chewing-gum est juste sur le bord du pneu. D'accord ? Alors ça fait la courbe bleue. Hein, donc la hauteur, c'est 2R. Vous voyez, ça revient au bout de 2πR. Et vous pouvez vous demander quelle est l'aire de l'arche de cycloïde. Alors, c'est une vieille question. Quelqu'un comme Galilée avait même plus ou moins déterminé expérimentalement. Bon, enfin, vous voyez, il y a des gens très très bien qui ont réfléchi beaucoup là-dessus. Et avec le calcul intégral que vous êtes censé connaître, ça se fait très très vite. Hein. Je vous laisse réfléchir. On peut paramétrer, si vous paramétrez la courbe par l'angle dont vous avez tourné le cercle vert, elle s'écrit R fois T moins sinus T, et Y c'est R fois 1 moins cosinus T. La dérivée de X en T se calcule immédiatement, et l'R, c'est l'intégrale de Y dx, puis vous faites le changement de variable, vous exprimez X et Y en fonction de T, ça vous donne une intégrale très simple, que vous calculez très simplement, la primitive vous la calculez, vous vérifiez si vous ne savez pas la calculer, mais c'est très simple, et vous obtenez que ça fait 3 fois pi r carré. C'est clair, c'est presque évident sur la figure, hein, comme ça fait 2 pi r, et ça fait 2 r, c'est certainement dans le rectangle qui est là, qui fait 4 pi r carré, et ça contient au moins la moitié. Donc le facteur c'est entre 2 et 4, il se trouve que c'est 3. Et vous voyez avec la technologie de Newton et Leibniz, c'est extrêmement simple. Bon, ça c'est une première chose. Une deuxième chose que vous permet de faire cette correspondance entre intégrale et R, c'est que tout simplement, par exemple, vous pouvez définir, les R existent, vous croyez à l'existence des R. D'accord ? Donc vous pouvez définir des fonctions par des R, vous pouvez définir des fonctions par des intégrales. Par exemple, vous pouvez définir le logarithme comme la primitive de 1 sur t. Et une petite manipulation très très simple que j'ai faite là vous montre que le logarithme, comme un honnête logarithme, envoie le logarithme d'un produit, c'est bien la somme des logarithmes. D'accord ? Vous pouvez faire ça pour d'autres fonctions. Hein. Après tout, si vous voulez définir formellement les fonctions trigonométriques, une façon rigoureuse et pas du tout absurde de faire consiste à définir, par exemple, la fonction arcsinus par cette formule et d'en déduire le reste de la trie trigonométrique. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses, c'est le cœur du cœur. J'espère pas vous avoir embêté. J'espère que vous en connaissez déjà une partie. Voilà. Donc maintenant, je voudrais revenir sur un certain nombre de points historiques du développement du calcul différentiel et intégral. D'abord, je voudrais insister sur le fait que ce que je vous ai raconté là ça correspond à une fenêtre de l'histoire du calcul différentiel et intégral qui se situe à la fin du XVIIe siècle, mais que c'est une histoire très 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 longue, sur la très très longue durée. Donc si on veut vraiment essayer de comprendre tout ça sur la très longue durée, il faut remonter aux mathématiciens de la Grèce de l'époque hellénistique, des gens comme Eudoxe, donc qui travaillait à Alexandrie, ou Archimède, qui travaillait en Grande Grèce, à Syracuse, à l'époque hellénistique, qui se sont beaucoup intéressés et qui ont fait des choses extraordinaires de calcul de volume et d'air, mais dans un langage géométrique, donc je ne vais peut-être pas dire grand-chose là-dessus. Je voudrais insister sur le fait que, vous voyez, Newton et Leibniz sont une contribution essentielle, mais par exemple sur le calcul différentiel, ils avaient déjà des précurseurs de tout premier plan, des gens comme Fermat, dont vous avez sans doute entendu parler, Isaac Barrow, qui était le maître de Newton, qui était comme lui à Cambridge. C'est un point très important. Les mathématiques, c'est une science cumulative, et de façon un peu symétrique, c'est rare qu'il y ait une révolution absolue. C'est-à-dire qu'en général, une nouvelle notion, il y a souvent quelqu'un avant qui avait déjà une partie, et chacun se met sur... améliore ce qu'ont fait les prédécesseurs. Donc même des gens aussi extraordinaires que Newton et Leibniz dans le calcul intégral, au fond, ont élaboré sur les travaux de leurs prédécesseurs. Alors, après les grandes découvertes de Newton et Leibniz, le calcul intégral s'est développé tout au long du XVIIIe siècle, dans des directions assez intéressantes, tout à fait que vous connaissez peut-être, la mécanique céleste et la mécanique. Et au XIXe siècle, comment dire, les mathématiques et la physique sont vraiment devenues deux sciences séparées. Hein, jusqu'aux années 1800-1810, c'était quasiment la même science. Hein, des grands mathématiciens comme Gauss étaient professionnellement autant des physiciens que des mathématiciens. Gauss, par exemple, professionnellement, était un astronome. Hein, au XIXe siècle, les choses ont changé. Et de fait, l'influence du calcul intégral est devenue assez diverse. Alors, je voudrais revenir sur un certain nombre de ces points. Il y a eu une façon extrêmement simple d'avoir un instantané de l'état du calcul différentiel et intégral à la fin du XVIIIe siècle, à peu près un siècle. Un calcul, et vous voyez intervenir cette intégrale, qui est aussi, vous voyez, une intégrale qui fait intervenir la racine carrée d'un polynôme du troisième degré. Si c'était la racine d'un polynôme du second degré, vous sauriez la calculer avec les fonctions élémentaires. Il suffit de passer du degré 2 au degré 3 pour introduire un monde entier de nouveaux objets mathématiques. Donc, vous voyez, c'est ça qui est extrêmement frappant, c'est que, inexorablement, à partir de découvertes de Newton et Leibniz, vous êtes conduit à explorer ces nombres, ces objets qui sont là. Alors, aujourd'hui, vous pouvez vous dire, pas de problème, avec une calculatrice, on calcule ça numériquement très très bien. C'est vrai, mais jusqu'à un passé tout proche, moi-même, quand j'étais petit, il n'y avait pas de calculatrice, on faisait des calculs à la table de log. Eh bien, calculer une intégrale comme ça, vous aviez intérêt à être malin, à avoir des formules intelligentes sur ces fonctions pour pouvoir les tabuler. Hein. En fait, même aujourd'hui, c'est important. Mais en tout cas, le besoin de la tabulation des intégrales a été une motivation très importante. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer ce qu'étaient les mathématiques, un tout petit point des mathématiques du 19e siècle autour du calcul différentiel et intégral. Et dans mon tableau de tout à l'heure, pour les maths, pour la physique du 19e siècle, j'avais mentionné ce nom, mécanique, thermodynamique, ondes et champs. Donc, le calcul différentiel et intégral est devenu extrêmement riche au 19e siècle. C'est un peu difficile d'expliquer pourquoi, mais simplement, je voudrais vous donner une idée du type de phénomène scientifique qui a pu être abordé. Par exemple, une chose que j'aime beaucoup, c'est Rayleigh, Lord Kelvin, dans les années 1860, a pu faire une théorie, qui est une très bonne théorie, qui est la bonne théorie, qui explique pourquoi le ciel est bleu. Pourquoi le ciel est-il bleu et pas orange? Pourquoi le ciel est orange le soir et bleu le jour? La raison est simple, c'est que la lumière du soleil, bien sûr, se décompose en une superposition de lumière de toutes les couleurs, et le point, c'est que la lumière bleue est plus diffusée par l'air de l'atmosphère que la lumière rouge. D'accord? Donc, le soir, quand la lumière du soleil au crépuscule, quand vous regardez le soleil, il y a une énorme épaisseur d'atmosphère entre vous et le soleil, il ne reste presque plus de lumière bleue dans ce que vous voyez, et vous voyez la lumière orange, et puis par ailleurs, n'importe quand dans la journée, quand bien sûr, quand il n'y a pas de nuages. Ce que vous voyez, c'est la lumière qui est diffusée par le soleil, qui a été très diffusée, qui vient de directions différentes de celle du soleil, et c'est la lumière bleue que vous voyez plus. Donc en fait, par exemple, le genre de choses qu'ont fait les physiciens, mathématiciens du 19e siècle, c'est de développer par exemple une théorie ondulatoire de la lumière, qui utilise beaucoup de calculs différentiels et intégrales, qui vous permet d'expliquer ce genre de choses. Par exemple, un autre exemple qui paraît très très simple et pour lequel vous avez besoin d'une très sérieuse quantité de mathématiques et de fonctions spéciales et de choses comme ça pour résoudre, bon là j'essaie de faire un dessin, c'est la théorie des vagues d'étrave. J'ai dessiné les vagues d'étrave de deux navires. Celui de gauche c'est un canard et celui de droite c'est un super tanker. Le point, c'est une chose que vous pouvez observer, les vagues d'étrave c'est les mêmes toujours. Il y a un angle universel des vagues d'étrave que je sais plus combien, 49 degrés quelque chose. D'accord ? Alors, en fait, si vous connaissez un peu de physique, vous analysez la dimension, de quoi ça peut dépendre, c'est pas très difficile de se convaincre que les vagues d'étrave doivent être toujours les mêmes. Donc là, vraiment, si vous aimez la physique, pour déterminer, vous faites une expérience dans votre lavabo, vous irez dans votre lavabo et vous en déduisez que c'est la même chose pour tout, aussi pour les supertankers. Si vous êtes un mathématicien, vous vous dites, il n'y a pas de raison que je ne sache pas calculer ça à partir des premiers principes, et vous le faites. Mais ça va vous coûter cher, ça vous coûte des mathématiques compliquées, vous devez introduire des fonctions bizarres, définies par des équations différentielles, des fonctions de Bessel, regarder leurs zéros, des choses comme ça. Donc ça, c'est le genre de choses auxquelles se sont amusées, si on peut dire, la direction dans laquelle s'est développée la physique mathématique du 19e siècle. Voilà. Donc, vous voyez, on est parti de phénomènes tout à fait célestes à des phénomènes plus terrestres. Et bien sûr, je ne mentionne pas, mais le calcul différentiel intégral a joué un rôle essentiel dans le développement de la mécanique, de la thermodynamique, tout au long du 19e siècle. Alors, je voudrais maintenant essayer de dire des choses sur la façon dont tout ça s'est développé depuis un siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, le point, dans une discussion sur le calcul différentiel, aujourd'hui, qu'on peut avoir, c'est ce que vous avez envie de dire, c'est oui, ok, tout ça, c'est très très bien. Enfin, c'est quand même de la vieille physique, le ciel bleu, les vagues d'étrave, etc. Au 19e, au 20e siècle, et maintenant au 21e siècle, les applications des mathématiques à d'autres sciences sont devenues très diverses, et fondamentalement, le calcul différentiel est très très loin. Donc quand vous pensez aux autres sciences, bien sûr, du 20e siècle, il y a d'abord le fait que depuis la toute fin du 19e siècle, on s'intéresse à la physique subatomique. Il y a tout un tas de phénomènes, des phénomènes qui interviennent notamment en physique nucléaire, qui sont de nature très différente des phénomènes dont on a l'habitude. Par exemple, ça date de la découverte de la radioactivité, et vous savez qu'il y a toute une partie de la physique, de la mécanique quantique, mais qui mélange à la fois la mécanique et l'électromagnétisme, qui s'est développée pour expliquer tous ces phénomènes. Il y a un autre aspect, que vous avez sans doute entendu parler, des sciences fondamentales depuis les années 1900, c'est la relativité. Il y a d'autres sciences encore qui, a priori, n'ont rien à voir avec le calcul différentiel et intégral, comme la logique et l'informatique. Et puis, par ailleurs, vous savez peut-être aussi que des domaines comme la géométrie algébrique ou la théorie des nombres ont fait des progrès spectaculaires depuis une trentaine d'années. Et comment tout ça se place par rapport au calcul différentiel et intégral, à toute cette vieille histoire qui remonte à Leibniz et Newton? Alors, je voudrais insister, je voudrais vous essayer de vous convaincre du fait que c'est un des points très frappants dans les mathématiques, à savoir que les choses se passent dans la longue durée, et qu'un certain nombre de choses qui sont déjà visibles dans les travaux de Leibniz et Newton restent encore extrêmement prégnantes et inévitables aujourd'hui. Alors, peut-être, d'abord, discutons une minute l'aspect strictement technologique. Qui se sert du calcul différentiel et intégral? Qu'est-ce qu'on fait avec le calcul différentiel et intégral au XXe siècle? Alors, j'ai trouvé un exemple, que je trouve assez frappant. C'est par exemple, vous connaissez, ou je ne sais pas si vous connaissez, Andrei Sakharov, ce physicien russe. Donc, ce physicien qui a eu une vie extrêmement étrange, extrêmement intéressante, qui était un théoricien extrêmement brillant. Donc vous voyez, il est né en 1921, bon, à une époque, sa jeunesse était à une période très lourde, très dure, de l'histoire de la Russie, ou de l'URSS. Et en juin 1948, c'était donc un jeune physicien brillantissime, il a été incorporé dans le groupe de recherche dirigé par Igor Tam, un très grand physicien théoricien, puis après pratique, sur la bombe thermonucléaire soviétique. Donc, en termes de date, hein, rappelez-vous, hein, les Américains ont fait exploser en 1945 une bombe atomique, et assez peu de temps après, ils sont mis à travailler sur la bombe thermonucléaire. La bombe thermonucléaire américaine a explosé en 1953, je crois. Les Américains se sont mis dans la les Russes se sont mis dans la compétition en utilisant de façon maintenant, c'est un fait historique avéré, un certain nombre d'informations obtenues par espionnage. Et ils les ont presque rattrapés au sens où en 1955, ils ont été capables aussi de faire exploser une bombe thermonucléaire, et ceci dans un pays qui avait été complètement détruit par la guerre avec l'Allemagne nazie. Donc, l'histoire de Sakharov est très étrange, au sens où, après 1967, il s'est beaucoup impliqué, et motivé par, sans doute, la façon dont il avait été directement impliqué dans la mise au point des bombes thermonucléaires, dans des questions de droits de l'homme, de relations entre les États, pour lesquelles il a eu le prix Nobel en 1975. Donc, en 1990, est paru en français et en anglais les mémoires de Sakharov. Alors, c'est un livre à la fois extrêmement fascinant, extrêmement intéressant, que je vous recommande vraiment de lire si vous voulez savoir comment a vécu à la fois un grand scientifique qui s'intéressait à des grandes questions politiques et géopolitiques, qui est aussi extrêmement frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, qui sont classifiées dans ce qu'a fait Sakharov et donc dont il ne peut pas parler. Toutes les choses, beaucoup de choses sur les programmes thermonucléaires soviétiques, il s'était engagé à garder le secret dessus, et il n'en parle que de façon très allusive. Et en fait, une des rares choses techniques et scientifiques qu'il dit, c'est la chose suivante. Il explique ce qui s'est passé littéralement les 2-3 premiers jours où elle était dans le projet. Et il explique, donc voilà, j'ai copié le texte, c'est par le calcul d'intégrale connue de chaque étudiant en moyenne de la méthode du col que je commençais mon travail dans le groupe de TAM, j'écrivais en quelques jours mon premier rapport secret. Alors, ce texte est assez... Bon, là aussi, on peut faire une explication de texte. La première chose que vous pouvez voir, c'est que d'abord, je pense qu'il y a une erreur de traduction, mais j'étais incapable d'avoir accès à autre chose que l'édition française, parce que je pense que ce que ça veut dire, c'est le calcul d'intégrale par la méthode du col qui est connue de chaque étudiant. Ce n'est pas les intégrales qui sont connues. Ensuite, c'est très frappant de voir qu'au fond, quand il écrit ça, Sakharov, 30 ans après, 40 ans après, a encore le plaisir, se souvient du plaisir clairement qu'il a eu à faire un calcul qui marche, à utiliser ses techniques. Et c'est une chose qui est, bon, qu'il faut peut-être dire à un public, c'est utiliser ces méthodes mathématiques puissantes, c'est toujours très agréable. Peut-être certains d'entre vous écrivent des programmes, sont un peu des hackers. Quand on est hacker, c'est toujours très agréable d'écrire un programme qui tourne. Et calculer une intégrale et trouver en quelques jours de calcul un premier résultat de physique non trivial, même avec une méthode classique, c'est très agréable. Une chose que vous pouvez voir, c'est que si Sakharov dit ça, c'est que c'est une information dont vous ne pouvez rien tirer. Ça vous montre matériellement que le calcul intégral, c'est vraiment le pain quotidien de la physique, de la technologie de haut niveau. Hein? Ça, c'est une première remarque que je voulais faire. Une deuxième remarque que je voulais faire à propos de l'informatique, bon, je voudrais être assez rapide là-dessus, c'est l'informatique, derrière l'informatique telle que vous la connaissez aujourd'hui, il y a la collusion de tout un tas d'idées scientifiques sur la très longue durée, au moins deux. La première, c'est une idée qui peut-être aujourd'hui est presque évidente si vous faites des programmes et qui ne l'est pas du tout dans l'absolu. C'est la suivante. Quand vous utilisez un programme un peu compliqué, par exemple un programme de jeu avec des graphismes compliqués, vous utilisez un programme qui correspond à des dizaines, des centaines de milliers de lignes de code. D'accord ? Et c'est censé être évident pour tout le monde aujourd'hui que le code est correct. D'accord ? Donc c'est censé être évident qu'on peut écrire un texte scientifique, là c'est un code de programme, de plusieurs centaines de milliers de lignes, qui idéalement au moins est complètement correct. D'accord ? Ce n'est pas du tout une idée évidente, au sens où pendant très très longtemps, il y a cette idée qu'un texte s'écrit avec une certaine approximation, dans une langue naturelle, dans laquelle on peut toujours remplacer éventuellement un mot par un autre, etc. Et alors, cette idée qui est vraiment au fond de l'informatique, Hein, cette idée d'avoir un texte, un programme, c'est formellement comme une démonstration. Hein, ce n'est pas une analogie formelle. C'est le fait que les programmes soient comme les démonstrations, c'est un fait scientifique hein, qui donne lieu à toute une théorie. Hein. Mais le fait, par exemple, qu'on puisse écrire une démonstration comme un programme de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de pages absolument juste, ça, ce n'est pas une idée évidente. C'est même une idée qui, je pense, aurait beaucoup surpris des grands scientifiques du XVIIe siècle, comme certainement Newton, peut-être moins Leibniz, sans doute aussi Descartes, peut-être moins, et qui n'aurait certainement pas du tout été naturel pour tout un tas de très grands physiciens du XIXe siècle, et qui aujourd'hui est devenu naturel, et qui est devenu naturel parce que, vous savez, sans doute, au début du XXe siècle, il y a eu tout un travail sur le fondement des mathématiques. Pourquoi c'est vraiment rigoureux? Et alors, la question de justification du calcul différentiel et intégral est une question très ancienne, qui date des débuts du sujet, sur le statut duquel, un siècle après, D'Alembert écrit des choses très intéressantes à lire dans l'encyclopédie. Et à l'époque, c'était clairement pas du tout clair, en fait. La polémique était loin d'être fermée. Et au début du XIXe siècle, pour fonder plus précisément le calcul différentiel et intégral, on a commencé à définir les fonctions, les dérivées, les limites, comme on vous les enseigne, de façon plus précise. Donc ça, c'est le travail, c'est la période du début du XIXe siècle, la rigueur en analyse, des gens comme Cauchy ou Abel. Et en fait, tout au long du XIXe siècle, il y a eu un progrès sur ces notions qui a conduit à réfléchir plus tard aux définitions rigoureuses de nombres ou de fonctions et d'ensembles, hein, par des gens comme Dedekind, des Cantors, à la fin du XIXe siècle, qui ont conduit inexorablement à travailler sur le fondement des mathématiques, et c'est un fait physique, ce sont les mêmes personnes qui ont travaillé sur le fondement des mathématiques, hein, des gens comme Gödel, Turing, von Neumann, et qui ont pensé aux ordinateurs, qui ont inventé les ordinateurs. D'accord ? Donc il y a une généalogie assez étrange, mais en fait très très profonde, entre notre sujet et l'informatique d'aujourd'hui, même si à certains égards l'informatique paraît très très loin de ces vieilles mathématiques. Alors, l'autre point dans lequel l'informatique a à voir avec le calcul différentiel intégral, c'est que l'informatique serait impossible s'il n'y avait pas les transistors, l'électronique. Et l'électronique serait impossible s'il n'y avait pas eu la mécanique quantique. Et il y a un rapport très profond et très intéressant entre le calcul différentiel et la mécanique quantique, que je voudrais essayer de vous expliquer. Bon, alors je vous demande un tout petit peu de patience, vous allez être encore victime d'une expérience pédagogique. Alors, je voudrais introduire une notion. Quand on fait le calcul différentiel, oublions le calcul intégral, quand on fait le calcul différentiel, au fond, comme vous le savez, le fait de différencier est une opération qui est linéaire, et par ailleurs, vous connaissez la formule pour la différentielle d'un produit. La différentielle de AB, c'est la différentielle de A fois B plus A fois la différentielle de B. Et vous savez même qu'on appelle souvent cette règle la règle de Leibniz. Bon. Alors, cette règle détermine presque la dérivation. Dans le sens technique suivant, par exemple. Si vous vous limitez aux fonctions très gentilles que sont les polynômes d'une variable, si vous considérez les applications linéaires qui satisfont la règle de Leibniz, il y a la dérivation, d sur dx, et il y a aussi l'opération que vous obtenez en dérivant, en multipliant par un polynôme fixe, c'est presque évident. Et ce que j'affirme, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, bon, je ne vais peut-être pas passer de temps là-dessus, c'est là qu'il y a en bas. Je vous laisse faire ça en exercice, on peut revenir là-dessus plus tard. Donc, au fond, la règle de Leibniz, sur laquelle Leibniz insistait vraiment lui-même, dans une large mesure, capture l'essence du calcul différentiel. Et c'est pour ça qu'un objet mathématique, cet objet mathématique, une opération linéaire qui satisfait la règle de Leibniz, on appelle une dérivation. Bon, ça, c'est une petite chose, une première chose. Maintenant, quelques remarques sur les mathématiques de la physique quantique. Alors, ça, c'est des choses qu'on n'est pas censé raconter aux enfants, mais en fait, c'est très simple. C'est ça que je voudrais vous montrer, c'est à quel point c'est simple, et formellement simple. Donc ce que je vais vous raconter, c'est la physique quantique, telle qu'on a vu d'abord Werner Heisenberg, puis Dirac, et du point de vue mathématique, ça joue un rôle très important, par exemple, dans les mathématiques qu'a développé quelqu'un comme Alan Cohn depuis une trentaine d'années. Alors, en physique quantique, on travaille avec des nombres ou des choses qui sont représentées, des quantités physiques, comme, je sais pas, une longueur, une position, une vitesse, des grandeurs observables. Alors, la découverte d'Heisenberg, c'est qu'on peut faire de la physique en supposant que ces grandeurs observables sont des nombres qu'on représente par des symboles dans une algèbre, et on peut les... Quand on a deux grandeurs observables, on peut considérer leur somme, on peut considérer leur produit. Puis il y a les règles, vous avez l'associativité usuelle. Mais ce qu'a découvert Heisenberg, c'est que fondamentalement, il faut travailler avec des nombres, comment dire, qui ne commutent pas. A fois B n'est pas égal à B fois A, whatever it means. Ce qu'a découvert Heisenberg, c'est que le fait que des grandeurs ne peuvent pas être observées simultanément est décrit par le fait que ces commutateurs, hein, la différence entre le produit de A par B et du produit par A, peut être non nulle. J'ai mis différent, éventuellement, je vais mettre différent de zéro. Alors, des nombres, entre guillemets, comme ça, vous en avez rencontré. Vous avez déjà dû voir des matrices de 2, non, peut-être ? Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, ou les par exemple, si vous regardez les applications linéaires d'un espace, du plan dans le plan, des choses comme ça, vous pouvez les additionner, vous pouvez les composer, mais ça ne commute pas. Bon, alors, à ce point-là, on peut faire une petite observation formelle. C'est que si vous choisissez un élément de votre algèbre et que vous regardez l'application qui est un élément petit a associé au commutateur de f et de a, c'est une dérivation. Ça satisfait la règle de Leibniz. Vous voyez ? Alors, c'est vraiment, une fois que vous le savez, c'est, vous calculez, c'est très simple. Vous vérifiez. C'est bien. Bon. Donc, quand vous êtes avec des algèbres où le résultat du produit dépend de l'ordre, vous avez des dérivations qui mesurent et qui sont données exactement par ces commutateurs, par le fait que ça ne commute pas. Alors, vous pouvez résumer essentiellement toute la mécanique quantique, si j'ose dire, du point de vue mathématique, en un transparent, en disant que la dérivation du calcul différentiel de Newton et Leibniz, la différence, est liée à la dérivation qu'on vient de définir. À savoir, en mécanique quantique, les grandeurs observables sont représentées par des éléments, une certaine algèbre, comme ça, qui dépendent du temps, et l'évolution dans le temps est décrite par le fait que dx sur dt est égal au commutateur de x et de h, où h est l'élément de l'algèbre qui décrit l'énergie. Donc vous voyez, au fond, la mécanique quantique vous dit que, en un certain sens, les dérivations qui sont liées à la non-commutativité moderne, mais des objets purement algébriques, c'est la même chose que les dérivations liées au calcul différentiel. Donc c'est très très frappant, et ça c'est vraiment le cœur de la mécanique quantique, et vous voyez, sur la formule, c'est très très dans l'esprit de Leibniz, à savoir que voilà, c'est une dérivation est égale à une autre dérivation. C'est quelque chose à la fois qui correspond à des concepts très puissants et que vous pouvez résumer en quelques caractères typographiques. Voilà, donc ça, c'est un des points très vivants de ce qu'est le calcul différentiel aujourd'hui. Et un dernier point que je voudrais discuter, je vais prendre encore quelques minutes là-dessus, alors, je voudrais en parler parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur professionnellement, c'est le lien entre le calcul différentiel et l'arithmétique, les nombres. Alors, je voudrais vous expliquer un sujet qui est vraiment aujourd'hui très mystérieux et très mal compris, et à cause de ça, très fascinant. Alors, j'ai écrit sur ce transparent deux théorèmes. Le premier théorème, c'est un théorème vraiment sérieux, qui a été démontré il y a une quinzaine d'années par Androuys, que Fermat avait plus ou moins écrit comme conjecture. C'est un énoncé très très simple. Donc, vous vous donnez un entier naturel, au moins égal à 3, vous regardez l'équation A puissance n plus B puissance n égale C puissance n. Donc vous cherchez des solutions entières. Alors, il y a des solutions idiotes. C'est si vous prenez, par exemple, B égale 0 et A égale C. D'accord ? Alors, le théorème vous dit qu'il n'y a pas de solution autre que ces solutions idiotes. D'accord ? Alors, il faut prendre au moins n égale 2 parce que vous savez que pour n égale 2, il y a des solutions. 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. Alors, ce théorème a un cousin dont je voudrais vous parler. C'est que vous pouvez regarder la même équation, mais dont vous cherchez des solutions polynômes d'une variable. Et j'affirme que là, ici encore, il n'y a pas de solution non idiote. Les solutions idiotes, alors je vais expliquer en vert ce que ça veut dire. Il y a une façon très simple d'avoir une solution. Vous prenez trois nombres réels, P, Q et R, tels que P puissance N plus Q puissance N égale R puissance N. Ça, il n'y a pas grand mérite à faire ça. Vous vous donnez P et Q, disons, positifs. Vous prenez P puissance N plus Q puissance N, et puis vous définissez R pour que ce soit vrai en prenant la racine énième du nombre de gauche. Et puis une fois que vous avez trois nombres comme ça, vous les multipliez par un polynôme commun, S, ça vous donne trois polynômes P, Q et R, et c'est immédiat qui satisfont l'équation. Donc ça, c'est les solutions idiotes. Et j'affirme que pour ce problème polynomial, il n'y a pas d'autre solution que les solutions idiotes. Alors, le point, c'est que ce théorème-là est vraiment difficile, et que ce théorème-là est tout à fait accessible. Et je voudrais vous le montrer. Je voudrais vous convaincre, peut-être pas suivre tous les détails, mais vous convaincre que si vous le voulez, vous pouvez suivre les détails. Donc, on part d'une solution hypothétique à notre équation. P puissance n plus Q puissance n égale R puissance n. Je ne suppose pas idiote. Et on veut démontrer que si on a n plus grand que 3, il y a une contradiction. Alors, une chose qu'on peut faire, c'est voir qu'on peut supposer que P et Q et R n'ont pas de facteurs communs, sinon on peut simplifier par les facteurs communs. Et à ce moment-là, on peut voir qu'ils sont 2 à 2 sans facteurs communs. Alors, le cœur de la démonstration, c'est évidemment, ça ne va pas vous étonner, c'est de prendre la dérivée, c'est de prendre la différentielle. Si vous dérivez votre équation, vous obtenez que P, Q et R satisfont cette nouvelle équation. Facile. Dérivée. Bon. Donc, vous voyez, P, Q et R, ils satisfont l'équation de départ que j'ai écrite sur la première ligne en bleu. Et puis, cette équation-ci, donc j'ai simplifié par elle et je l'ai réécrite comme ça. D'accord ? Bon. Alors, la suite, il faut démontrer que ça, ce n'est pas possible. Donc, c'est des trifouillages élémentaires que vous pouvez suivre, qui ne sont pas très éclairants. Et en un certain sens, du point de vue du cœur de la preuve est terminée ici. Ce n'est pas difficile de voir qu'un tel objet ne peut pas exister. Alors, quand même, je voudrais vous montrer très vite. Vous voyez, vous êtes les trois puissances, P puissance N, Q puissance N, R puissance N, sont des solutions x, y, z de ce système de deux équations linéaires. Alors, vous savez que quand vous avez des équations linéaires, vous pouvez les résoudre en éliminant les inconnus. Donc, typiquement, si vous voulez éliminer x entre ces deux équations, vous multipliez la première par p', la deuxième par moins p, et vous additionnez. Et vous obtenez l'équation que j'ai écrite en verte. Puis, vous pouvez éliminer y en marron, et puis éliminer z en violet. Donc, vous obtenez ces trois équations que vous pouvez réécrire un petit peu autrement, comme le fait que ces trois rapports sont égaux. Et si x, et y et z sont des polynômes 2 à 2 sans facteur commun, vous voyez qu'en fait, c'est une fraction rationnelle qui est nécessairement un polynôme. Pas très difficile. Bon, donc le trifouillage, peut-être peu rebutant, vous l'appliquez à ce qu'on avait tout à l'heure, et vous en déduisez nécessairement que RQ' moins Q'R s'écrit fois sous la forme S, où S est un polynôme, fois P puissance N moins 1, et puis deux autres équations du même tonneau. Et à ce moment-là, ce n'est pas possible pour des raisons de degré, tout simplement, parce que vous pouvez calculer le degré de ce polynôme-ci, c'est la somme des degrés de R et de Q au plus moins 1, et donc vous obtenez tout un tas d'inégalités de degré, vous les additionnez, vous obtenez une absurdité. Bon, peu importe, c'est un trifouillage accessible, que vous pouvez tout à fait suivre en terminale, malin, pas très éclairant. Le point de la preuve, c'est d'avoir pu commencer par prendre la dérivée de nos équations. D'accord ? Et après, on se donne un peu de peine et on arrive à démontrer le théorème. Alors, c'est un phénomène, le point mathématique sur lequel je voudrais conclure cet exposé, c'est que ce n'est pas un hasard. En fait, il y a une analogie qui est un sujet classique de la théorie des nombres depuis presque un siècle et demi aujourd'hui, entre les propriétés des entiers, si vous voulez, de Z, munis de l'addition et de la multiplication, de l'anneau des entiers, et puis les propriétés de polynômes, d'anneaux de polynômes. Par exemple, une chose que vous avez peut-être vue, qui est très très simple et qui est déjà significative, dans les entiers, vous avez la division euclidienne. Vous avez peut-être vu les divisions euclidiennes de polynômes. Bon. se trouve que quand vous voulez démontrer des choses dans le monde des polynômes à une variable au lieu des entiers, vous disposez d'un outil très très puissant qui est la dérivation. Et vous avez vu sur l'exemple de tout à l'heure, hein, l'analogue dans le monde des polynômes d'un théorème comme le théorème de Wiles, théorème de Fermat, qui est un des grands grands résultats de la théorie des nombres des 40 dernières années, un analogue vraiment tout à fait accessible à cause de la dérivation. Et le point, un point très mystérieux par exemple, c'est de comprendre aujourd'hui d'avoir une théorie de calcul différentiel sur les entiers suffisamment puissante pour qu'une preuve comme le théorème de Wiles devienne aussi simple que celle que je vous ai montrée. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un point sur lequel je peux m'arrêter. J'espère que vous allez avoir des questions. On peut revenir sur l'ensemble des démonstrations, des analyses historiques. Merci.